Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue pour une nouvelle émission de la série L'unité universelle parle, la parole de l'esprit créateur universel. Nous poursuivons aujourd'hui la lecture du livre portant le même titre, une œuvre cosmique d'enseignement et d'apprentissage donnée à l'école de la sagesse divine. La lecture des chapitres précédents nous a offert un aperçu unique de tout le processus de la création, tel que Gabriel l'a décrit au cours de différents entretiens. Il nous a été ainsi possible de glisser un regard par la porte à peine entrouverte sur l'action de l'Éternel, sur sa création depuis le début originel. Nous avons pu, entre autres, apprendre pourquoi et comment a eu lieu la formation de l'univers matériel et comment les forces originelles de l'existence pure agissent également dans la matière. Aujourd'hui, nous allons voir de quelle manière le principe séparateur a infiltré et infiltre notre monde et les effets désastreux qui en résultent. Nous verrons qui engendre et qui nourrit constamment ce principe de sorte que nous, les êtres humains, ne pouvons pratiquement plus percevoir l'unité universelle qui parle. Poursuivons donc la lecture. Les cinq composantes de la vie de l'homme deviennent des substances de combat. À plusieurs reprises déjà, nous avons entendu ou lu que nous devrions réfléchir à nos sensations, nos sentiments, nos pensées, nos paroles et nos actes. Associés à nos cinq sens, ces cinq composantes peuvent effectivement devenir de véritables explosifs, car elles sont des énergies que nous émettons et qui, en fin de parcours, reviennent toujours à l'expéditeur. Dans le but d'apprendre, nous pourrions nous demander qui nous sommes et ce que nous émettons. Les cinq composantes avec lesquelles l'être humain travaille jour après jour sont le contenu de ses sensations, de ses sentiments, de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. En faisant une analyse de l'époque et de la génération actuelle, on constate que ces cinq composantes sont devenues des substances de combat, qui se retournent contre ceux qui les émettent. Peu de gens réfléchissent à ces cinq composantes, et plus précisément à leur contenu, car ce sont eux les projectiles que l'homme tire quotidiennement et qui proviennent exclusivement de son propre arsenal. Chacun dépose ses propres substances de combat dans ses sensations, sentiments, et tout particulièrement dans ses pensées. On peut dire que chacun a déposé dans ses cinq composantes son propre arsenal, qui lui est spécifique. Chaque jour, à partir de son arsenal de sensations, de pensées, de paroles, voire même d'actes, l'homme tire sur son prochain ou sur les animaux et la nature. Ces tirs touchent aussi des personnes qui sont par conséquent incités à penser de la même manière, voire même à ordonner des actes malfaisants, comme par exemple des actes cruels envers les animaux ou le pillage de la planète Terre. Ces tirs peuvent agir comme des détonateurs dans différentes personnes et mettre en mouvement en elles des aspects semblables ou similaires. Une grande partie de cette masse en mouvement, les éclats des tirs, pour ainsi dire, revient vers l'expéditeur, vers celui qui, sans relâche, émet ses messages négatifs, ses substances de combat. Les éclats reviennent avec une infinie précision vers celui qui a tiré. En fonction du contenu des tirs, les conséquences peuvent être des coups du sort, de la détresse, des soucis, des accidents ou des maladies, voire même une mort prématurée. Répétons-le, les éclats de tir reviennent principalement vers celui qui a tiré, mais touche également, au passage, ceux qui envoient des tirs du même type à travers le contenu de leurs sensations, pensées, paroles et actes. L'initiateur est toujours celui qui a tiré. Comme dans l'infini tout entier, y compris dans le domaine de la matière, tout repose sur le principe émettre et recevoir, le registre dans lequel est consigné tout ce que nous émettons comme aspect négatif est régi par le principe « ce que tu sèmes, c'est-à-dire ce que tu émets, tu le récolteras, tu le recevras ». À travers ces cinq composantes, qui se transforme en substance de combat, l'homme s'empoisonne lui-même et empoisonne son environnement. Les cinq composantes, que sont nos sensations, nos sentiments, nos pensées, nos paroles et nos actes, peuvent également être des compagnons positifs, avant tout si elles sont utilisées selon la loi éternelle de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Ce serait là le chemin qui mène à une morale et une éthique plus élevée, et qui conduit à la vie, le cœur primordial de l'existence pure. La purification de ces cinq composantes nécessite bien sûr un travail sur soi-même. Il faut donc être vigilant et prudent dès lors que, à partir de l'une de nos cinq composantes, par exemple de nos pensées, se forment des associations qui pourrait conduire à des actes nuisibles à notre prochain. C'est le cas, par exemple, lorsque, par de belles paroles, nous voulons amener notre prochain à faire ce qu'il n'avait pas l'intention de faire, que nous l'influençons pour qu'il soit à notre service. Chers amis, il y a dans nos cinq composantes, par exemple dans nos pensées, de nombreux contenus de ce type qui sont différents chez chacun. Nous pensons en permanence. Nos pensées sont la première substance de combat de notre arsenal. Leur contenu, souvent composé de successions d'images, produit des substances de combat qui, en fin de compte, se retournent contre nous. L'homme pense sans interruption et sans prendre conscience que chaque pensée est une énergie qui cherche à se réaliser. Les aspects négatifs entretenus dans nos pensées dirigées contre nos prochains peuvent, par exemple, contenir des attentes, de la jalousie, de l'hostilité, voire du rejet ou de la haine. Ces énergies négatives se rassemblent et sont un jour ou l'autre utilisées, soit en paroles, soit en actes. La pensée prépare en amont tout ce qui s'active dans les profondeurs de notre monde de pensée et de désir. Un jour, l'énergie enregistrée par la pensée nous pousse à réaliser les images que nous avons ainsi construites et entretenues. Les substances de combat qu'au fil du temps nous avons insidieusement produites dans notre arsenal de pensée peuvent exploser à tout moment et se diriger contre notre prochain, contre la nature, les animaux, les plantes, mais leur contenu négatif peut également exploser dans nos propres organes et cellules.
In unseren Organen und Körperzellen einschlägt.
Ces enregistrements négatifs provenant du contenu de nos pensées font de nous quelqu'un de toujours plus renfermé, secret, à l'état d'esprit guerrier et nous amènent, un jour ou l'autre, à être brutal envers la vie. Nous déposons tout d'abord dans nos pensées ce qui se manifestera par la suite dans nos paroles ou nos actes. Le contenu de nos cinq composantes est la forge de notre destin. Nous créons ainsi des causes qui entraîneront un jour des effets. Chers amis, nous ne prendrons jamais suffisamment conscience que tout est vraiment énergie, également tout notre comportement dans tous les domaines de la vie. Même nos désirs culinaires sont influencés par le contenu de nos cinq composantes qui, en même temps, agissent sur la perception de nos sens. Ceci a entre autres pour conséquence qu'à l'occasion de certaines fêtes, D'innombrables animaux sont sacrifiés après avoir été élevés et enfermés toute leur vie dans des conditions indignes, dans le seul but de répondre aux désirs du palais de ceux qui, dans un flot de compliments, se délecteront de la chair des corps d'animaux martyrisés.
Mit Gaumenlust und Gaumenfreuden verzehrt.
D'autres victimes parmi nos frères et sœurs de la création sont, dans ce but, traquées et chassées sans pitié avant d'être tirées à la carabine. Bien souvent, elles ne trouvent la mort qu'après de longues heures d'horribles souffrances et d'angoisse. À travers ces tueurs qui accomplissent ces meurtres commandités, se matérialisent les substances de combat meurtrières qui ont également leur origine dans les cinq composantes. Il en va de même pour l'exploitation à outrance de la planète. La Terre offre ses richesses, mais cela ne suffit pas à l'homme. Poussé par le contenu des cinq composantes, ce dernier utilise des engrais chimiques et tue la vie du sol avec des substances toxiques, ceci dans le seul but d'extorquer le maximum à la Terre. Ce sont les différentes associations de nos cinq composantes qui nous poussent à utiliser nos substances de combat contre la vie. C'est aussi le cas lorsque nous planifions quelque chose qui nuira à notre prochain, ou bien aux animaux qui vivent dans les champs, les forêts, les rivières, les fleuves ou les mers, et qui, à cause de nous, trouveront une mort cruelle.
Grauenvolle Art und Weise das Leben verlieren und. Viele Menschen wissen,
beaucoup de personnes savent que tout est énergie, qu'aucune énergie ne se perd et que celle-ci est transmissible, également à travers nos pensées, nos paroles et tout notre comportement. Chers amis, chers téléspectateurs, nous poursuivons la lecture de ce livre qui parle également de nous-mêmes. Nous vivons dans un monde d'images. L'ensemble des comportements de chaque être humain est une succession ininterrompue d'images comparables à un film que nous repassons sans cesse, mais aussi que nous animons constamment à travers le contenu de nos cinq composantes, c'est-à-dire de nos sensations, sentiments, pensées, paroles et actes du moment, tout en y rajoutant de nouvelles images. Si vous avez de la peine à y croire, faites l'essai de penser lentement et consciemment. En faisant cet exercice, vous remarquerez rapidement qu'une ou plusieurs images veulent se former. N'interrompez pas le processus. Efforcez-vous d'observer ce à quoi vous pensez. Nous nous rappelons de notre passé sous forme d'images. Il en est ainsi parce qu'aucune énergie ne se perd. Nous pouvons penser et parler en même temps. Et nous pouvons même parler de ce que nous voyons en nous. Nos actes font aussi partie de ces successions d'images. Ce que nous n'avons pas vécu nous-mêmes, dont nous avons seulement entendu parler, mais à quoi nous pensons et dont nous parlons, peut aussi éventuellement prendre la forme d'une image. On peut cependant se demander si cette image, née à partir de conversations, correspond à ce que nous sommes ou à ce qu'est notre prochain. Nous n'avons aucun moyen de vérifier les paroles de notre prochain, car ce dont il parle n'est pas enregistré sur la bande de notre film. Si nous accordons crédit à ce que dit notre prochain et l'approuvons, nous enregistrons automatiquement dans notre film l'image que nous nous sommes faite lors de ces conversations. Nous sommes en fait des producteurs. Nous produisons le film de notre passé, de ce que nous avons nous-mêmes créé par le contenu de nos cinq composantes et, éventuellement, donnons vie à des images qui sont nées en nous lors de conversations et que nous avons enregistré dans le film de notre vie.
Eventuell ebenfalls das von anderen gehörte auf unserer Filmspule bildhaft lebendig werden. Alles.
Tout. Absolument tout est image. Des images qui se succèdent les unes aux autres. Nous intégrons à ce film tous les détails de notre vie, également ce que nous entendons et dont nous nous faisons une idée. Tout ce que nous acquérons, achetons, mangeons ou touchons, constitue également des successions d'images que l'on retrouve dans le film de notre vie.
Auf unserer Filmspule wiederfinden. Liebe Mitmenschen,
chers amis, les effets du contenu de nos cinq composantes que nous émettons ont beaucoup plus de portée que nous pourrions tout d'abord le penser. Si nous comprenons qu'à travers nos sensations, nos sentiments, nos pensées, nos paroles et nos actes, nous construisons en fait un arsenal d'armes, et si nous prenons conscience que tout est énergie et qu'aucune énergie ne se perd, nous comprenons également pourquoi la planète regorge aujourd'hui de systèmes d'armement de toutes sortes. 7 milliards de personnes ressentent, pensent, parlent et agissent chaque jour, chaque heure, à chaque minute, à chaque instant. Elles créent et émettent des énergies correspondant au contenu de leurs cinq composantes. Si ces énergies sont négatives, elles constituent, pour ainsi dire, le matériel de construction énergétique nécessaire à la fabrication d'arsenaux d'armes. Pas seulement au sens figuré, car elles créent réellement les conditions permettant que des personnes soient incitées à développer de nouvelles armes, à les produire, les installer, à s'exercer à leur maniement et finalement, à les utiliser contre leurs prochains. Le contenu négatif des cinq composantes disperse les éclats de tir et incite des personnes ou des groupes de personnes dont les composantes ont un contenu similaire à continuer à développer du négatif. Focaliser ces énergies négatives peuvent avoir des effets tout à fait concrets. Le potentiel énergétique négatif créé par les sensations, les sentiments, les pensées, les paroles et les actes de 7 milliards de personnes à chaque instant devient visible en se manifestant matériellement dans les nombreux arsenaux d'armes de ce monde. Le contenu de ces énergies négatives, composé d'aspects les plus divers, stimule les personnes travaillant dans la recherche et le développement d'armes à trouver de nouvelles idées pour des systèmes d'armement meurtriers toujours plus sophistiqués. Plus étudiés, leurs effets sont encore plus dévastateurs. Cela va même jusqu'au développement d'armes autonomes capables d'exécuter, par simple programmation et de manière totalement automatique, des actes destructeurs sur une cible déterminée. D'où vient l'énergie permettant d'inventer de telles armes? D'où vient la possibilité de planifier de tels systèmes d'armement, de les construire et de les utiliser? Tout cela représente beaucoup de travail et d'énergie. La machinerie meurtrière est à l'image de la diversité du contenu négatif de nos cinq composantes. Donc, les arsenaux énergétiques développés par l'homme dans ses sensations, ses sentiments, ses pensées, ses paroles et ses actes. Elle est sophistiquée et à usage multiple, que ce soit dans l'artillerie navale, l'armement terrestre ou la flotte aéronautique. navires de guerre, porte-avions, sous-marins atomiques et mines flottantes, hélicoptères de combat, jets de combat et chasseurs à réaction, drones meurtriers agissant de manière totalement automatique dans les airs ou encore chars de combat et systèmes de missiles au sol, jusqu'à la bombe atomique capable de tout détruire. Tous ces systèmes d'armement sont le produit de pensées, de sentiments et d'actes conscients de certaines personnes, mais sont également alimentés par la somme des énergies négatives de toutes les substances de combat, de tous les contenus meurtriers qui grouillent dans les cinq composantes de l'humanité tout entière. Ces substances de combat, souvent à peine perceptibles, insignifiantes et la plupart du temps qualifiées d'inoffensives, se regroupent et forment une énergie qui incite des personnes à donner une forme matérielle à l'agressivité, la brutalité et la violence développées dans les fabriques d'armes de nos cinq composantes, c'est-à-dire à construire dans les usines d'armes de ce monde des arsenaux d'armes réels. Les différentes substances de combat sont concentrées, comme à travers une loupe, de sorte que leur énergie hostile à la vie peut être utilisée dans la machinerie destructrice de l'industrie de la guerre. Chers amis, si l'on observe sous un autre angle les manœuvres engagées dans le combat contre Dieu, contre son amour universel, on peut aujourd'hui reconnaître que les puissances démoniaques ont choisi un nouveau stratagème. Leur but initial était la dissolution de la création divine. Aujourd'hui, elle vise à sa destruction. De nombreuses personnes se sont soumises aux injonctions démoniaques qui ordonnent de détruire tout ce qui ne se laisse pas mettre au pas, qu'il soit ami ou ennemi. On tue l'ennemi déplaisant, son prochain. On développe et produit des armes toujours plus monstrueuses et sophistiquées, des armes de combat qui sont des machines à tuer contre les hommes, les animaux et la nature. Sans aucun scrupule, on lutte contre son prochain avec des machines. Rares sont ceux qui se posent des questions à ce sujet et prennent conscience que tuer intentionnellement ses semblables est un fratricide. Aux yeux des dirigeants de nombreux pays, la technologie allemande d'armement jouit actuellement d'une cote élevée. L'Allemagne fait partie des plus gros exportateurs d'armes au monde. Le gouvernement d'un pays qui se réclame du nom de Jésus, le Christ, et produit des armes de guerre, a depuis longtemps déjà jeté son gant à la figure du Nazaréen qui a enseigné aux hommes « Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée, ainsi que ce que vous faites au plus petit d'entre les miens. C'est à moi que vous le faites. » La production de ces armes sophistiquées nécessite des sommes d'argent colossales, autrement dit, une énorme quantité d'énergie. Par conséquent, ces moyens financiers font défaut pour venir en aide à ceux qui ont faim, hommes, femmes et enfants. En ne leur portant pas secours, on les laisse sciemment souffrir et mourir de faim. Des êtres humains sont sacrifiés, sciemment, aux arsenaux de guerre. Cela s'appelle de l'infanticide, du fratricide. La tentative de dissoudre la création de Dieu a échoué. Meurtre et destruction sont d'autant plus à l'heure du jour. Il y a un véritable déchaînement de rage. Tout le monde est contre tout le monde, et contre la création de Dieu, contre l'unité divine, contre l'amour de Dieu et du prochain. Combattre Dieu, c'est entre autres aussi faire souffrir les animaux, tuer et exécuter ces créatures qui sont nos prochains des règnes de la nature, détruire la nature et exploiter à outrance la planète Terre. On se déchaîne contre la création de Dieu et la combat, on lutte contre la loi de l'amour pour Dieu et du prochain, contre la loi de la liberté. Celui qui fait des animaux un produit de masse Les élèves enfermés dans des espaces réduits, avant de les livrer au boucher, ne vaut pas mieux que celui qui les exécute lui-même. Celui qui mange la chair des animaux martyrisés et exécutés ne vaut pas mieux que celui qui les élève dans ce but et les conduit sur leur lieu d'exécution. Tous ces actes vont contre l'amour de Dieu, contre sa création, contre la vie qui est unité. La nature a, elle aussi, droit au respect et à la considération, car elle aussi porte en elle la vie issue de la force de Dieu. Celui qui malmène la nature est contre Dieu, contre l'amour de Dieu. Celui qui exploite la terre à outrance et mène la planète au bord du gouffre ne vaut pas mieux que celui qui tue ou fait tuer des êtres humains, maltraite et tue des animaux ou les conduit à la mort. Celui qui malmène la terre, qui est notre planète d'habitation, agit contre la vie, contre l'amour de Dieu et sa création. La soi-disant chrétienté a jeté son gant à la figure du Nazaréen et la terre qui appartient à la création de Dieu l'a attrapée et renvoyée à l'homme. L'homme a fait de sa mère nourricière la terre, son ennemi. La terre vaincra l'ennemi. Cela se manifeste déjà à travers ce qui est appelé la transformation climatique.
Chers amis, en participant aux différents entretiens avec Gabriel, je me suis rendu compte à quel point elle luttait pour trouver les mots exprimant l'amour et l'humilité avec lesquels Dieu, l'Éternel, se tourne vers sa création. J'ai pris conscience que l'homme, ce vandale pétri de cruauté, se prosterne encore devant le dieu Baal, qui aujourd'hui a seulement pris d'autres noms. Sa cruauté d'aujourd'hui est la même que celle d'hier. L'homme, qui est un immigrant sur la terre de Dieu, la ravage sans retenue et se conduit comme un vandale, détruisant tout ce qui appartient à Dieu, l'Éternel. La science nous enseigne qu'aucune énergie ne se perd et que les pensées sont également des énergies qui ne se trompent pas de direction. Avec leurs pensées, 7 milliards d'êtres humains émettent constamment, à chaque instant, des énergies au contenu multiple en direction de leurs prochains, des animaux et de la nature, ainsi que dans l'atmosphère de la Terre. Ce faisant, chacun, en fonction du contenu de ses pensées, diffuse dans l'atmosphère ses propres substances de combat qui se potentialisent en s'associant à d'autres contenus du même type. La plupart du temps, le contenu des sensations, des sentiments, des pensées, paroles et actes de l'homme va à l'encontre des 10 commandements de Dieu et du sermon sur la montagne de Jésus de Nazareth et forme ainsi, du point de vue énergétique, des rayonnements négatifs, c'est-à-dire des énergies au rayonnement négatif diffusées sans relâche. S'il n'en était pas ainsi, pourquoi la Terre et toutes les formes de vie qu'elle porte en son sein seraient-elles aujourd'hui dans cet état pitoyable? Même si les responsables politiques, économiques et religieux tentent, à grand renfort de belles paroles, d'occulter la fin imminente et inéluctable de la civilisation humaine actuelle.
Wer prägte und prägt die Menschen der Völker?
Qui a laissé et laisse son empreinte sur le mode de pensée et le comportement éthique et moral des peuples et apprend aux hommes à considérer comme positif un comportement souvent négatif dirigé contre tout ce qui vit, ainsi qu'à imiter ce comportement? Qui apprend et inculque aux hommes les valeurs, ou plutôt le manque de valeurs dont ils sont les représentants et qu'ils émettent inlassablement à travers le contenu des énergies rayonnant dans leurs sensations, sentiments, pensées, paroles et actes?
Wenn wir den Zustand unserer Welt und Umwelt betrachten,
l'état actuel du monde et de l'environnement nous place devant la question suivante. D'où vient ce manque de scrupules et de sens de la responsabilité envers les hommes, la nature et les animaux si largement
répandus?
D'où vient cette indifférence qui mène, en fin de compte, à l'autodestruction de la civilisation humaine?
Qui
considère et proclame depuis 1700 ans quelle est l'instance morale et éthique de ce monde et revendique jusqu'à aujourd'hui ce titre au nom de la tradition dont elle fait les hautes éloges? Et qui, à ce titre, revendique chaque année, ne serait-ce qu'en Allemagne, des dizaines de milliards d'euros de subventions provenant des recettes fiscales? Qui? Chers amis, celui qui, au cours de sa vie, est vigilant et attentif, constatera ce qui suit. Dans le cadre des traditions de l'Église, les substances de combat de nos cinq composantes prennent la forme suivante. Chaque année, les fêtes soi-disant chrétiennes sont accompagnées de gigantesques carnages au cours desquels coulent des millions de litres de sang. Une grande partie de la population ne voit pas de mal à ce que des millions d'animaux soient abattus pour ces occasions. Loi de la Saint-Martin, par exemple, fait partie des victimes broyées par cette machinerie meurtrière. L'histoire mentionne la miséricorde dont aurait fait preuve Martin de Tours en partageant son manteau avec un mendiant qui avait froid. C'est là toute l'histoire à la base de cette fête catholique. Quel rapport avec les millions d'oies assassinées aujourd'hui lors de ces festivités? Aucun, absolument aucun. Un jour, en cette occasion, des personnes ont probablement mangé un cadavre d'oie béni par des dignitaires de cette église, ce qui, à travers l'énergie des pensées correspondantes et surtout la bénédiction de la caste des prêtres, n'a pas manqué de se diffuser dans les esprits jusqu'à devenir ce qu'on appelle une tradition. Qu'en véritable mouton de Panurge, de nombreuses personnes ont adopté sans réfléchir et sans le moindre scrupule.
Gott der Ewige,
Dieu, l'Éternel, ne bénit pas les meurtres commis envers ses créatures. Quelle bénédiction repose alors sur les cadavres de tous les animaux massacrés aveuglément et sans pitié? Un autre grand carnage lié à la tradition a lieu à Noël, la fête de l'amour. Des centaines de milliers de dindes y laissent leur vie parce que des maîtres à penser de l'Église bénissent ce repas de cadavres pris lors de ce qu'on appelle la nuit sainte, amenant toujours plus de personnes à émettre des fréquences au rayonnement semblable et à devenir elles aussi adeptes d'un culte du sang et de la mort qui a son origine dans le paganisme. Le résultat est que les animaux sont les victimes d'un massacre qui a pris des proportions inimaginables et ne cesse d'augmenter chaque année. Pour les tortionnaires spécialisés dans la souffrance animale, sur Terre, l'affaire rapporte. Dans l'au-delà, par contre, dans le cadre d'une comptabilité supérieure, l'argent ainsi gagné sera inscrit au débit du compte de leur vie. À l'approche des jours de fête de l'Église, les prairies et les forêts sont elles aussi le théâtre de la cruauté. Chaque année, lâchement et sournoisement, les chasseurs abattent brutalement des dizaines de milliers de chevreuils et d'autres animaux de ces habitats, comme les lièvres et les sangliers. Il faut savoir qu'un grand nombre d'entre eux ne meurent pas sur le coup. Gravement blessés, voire même ayant perdu un de leurs membres, ils tentent de se cacher, de fuir l'homme avide de proie, avant de succomber à leurs blessures, après une agonie terriblement lente et horrible. En Allemagne, il est fréquent que les cadavres des animaux tués par les chasseurs soient bénis par des prêtres qui se disent chrétiens. Pour la fête de l'amour est alors servi un cuisseau de chevreuil finement mijoté, provenant la plupart du temps d'un animal mort horriblement après de terribles souffrances. Douce nuit, sainte nuit. Pleine de
bénédictions.
Cette nuit qui devrait être bénie est l'occasion pour les véritables chrétiens et successeurs de Jésus de Nazareth de faire l'expérience du Christ de Dieu dans le silence d'une prière profonde et intérieure, a été transformé par un christianisme tourné vers l'extérieur en un bain de sang et un banquet de cadavres qui sont une abomination pour Dieu et qui ferment les portes des cieux. Avec la bénédiction de l'Église, indifférente et sans se poser de questions, une grande partie de la population fait la fête au cours d'une nuit voilée et marquée par le malheur que l'encens des églises ne peut pas éclaircir, car les guides aveugles des religions, tels que Jésus les appelait, ne peuvent montrer qu'un seul chemin, celui qui mène dans l'abîme. Mais le désastre et le malheur ne s'arrêtent pas là. Les sapins de Noël subissent le même sort que les animaux. Cette coutume date du 19e siècle, mais c'est le 20e siècle qui en a fait un massacre de jeunes arbres égalant celui des animaux. Les pensées négatives d'indifférence et de mépris de la vie d'un grand nombre de personnes se focalisent pour devenir des énergies destructrices, massacrant par millions de tout jeunes arbres. Pourtant, cette jeune vie végétale, pleine de force et de sève, déjà bien enracinée, se réjouit du printemps à venir pour continuer à grandir et pouvoir donner nourriture et protection aux multiples formes de vie venant de Dieu. Ces jeunes arbres qui se réjouissent déjà de pousser et de fleurir, d'offrir leurs fruits et de dispenser leur ombre bienfaisante, sont tout bonnement coupés, abattus et massacrés afin que des personnes induites en erreur décorent une pièce de leur logement pendant quelques semaines seulement ou que les plus imposants d'entre eux soit sacrifié à ce culte païen sur une place d'église. Et tout cela, encore une fois, avec la bénédiction des maîtres à penser de l'Église qui se donnent le nom de prêtres et qui, bien souvent, ne comprennent pas grand-chose à la vie qu'est Dieu en tout et en tous. Beaucoup de gens savent que les arbres et les plantes sont des êtres vivants. Des études scientifiques menées dans les forêts et les champs attestent de l'interaction et de la communication des arbres et des plantes entre eux, et cela même à des distances très éloignées. Aujourd'hui, il est connu que les arbres et les plantes réagissent aux paroles que l'homme leur adresse et qu'ils aiment la musique classique. Il est connu qu'ils donnent des fruits particulièrement beaux lorsqu'ils entendent une musique classique harmonieuse. Il est connu que les arbres et les plantes ressentent la joie et le stress de façon similaire aux êtres humains et aux animaux. Chers amis, j'aimerais sans détour exposer ce que subissent les animaux et la nature pendant ces soi-disant jours de fête. Ces rituels meurtriers sont contre la loi de la vie qu'est Dieu et tombent sous le coup du cinquième commandement « Tu ne tueras pas ». Que leur victime soit une dinde, une oie, un chevreuil ou un arbre de Noël, et qu'il soit pratiqué au cours de ce qu'on appelle les jours de fête ou pendant le reste de l'année. En particulier à Noël, retentissent des chants rituels évoquant cette période comme un temps de joie, de félicité et de grâce. Parallèlement, cependant, des millions d'animaux sont sacrifiés à la divinité Baal et des millions d'hectolitres de sang s'écoulent dans les canalisations du monde soi-disant chrétien. Des millions d'arbres sont abattus sans pitié pour finir peu de temps après dans les poubelles chrétiennes. On pourrait croire que la plus grande partie de la population est sous une sorte d'hypnose démoniaque de masse qui lui a fait perdre toute sensation, tout sentiment, toute pensée, toute réflexion positive en faveur de la vie et tout engagement concret pour les formes de vie. En quoi toute cette terrible effusion de sang a-t-elle quelque chose à voir avec l'éthique et la morale? Ce qui a été montré ici à l'aide de quelques exemples est valable pour tous les animaux et toutes les plantes de la terre. Les substances de combat des cinq composantes n'épargnent rien, ni le canard, ni l'oie, le poulet ou le porc, pas plus que le bœuf ou le saumon, ou encore les arbres et les fleurs. Dans tous les cas, c'est la vie qui doit y laisser la vie. Cela est bien souvent, aujourd'hui encore, engendré par l'adoration de Baal, bien que de nos jours, il se dissimule sous différentes apparences. À travers son prophète Isaïe, Dieu l'Éternel révéla « Malheureux ceux qui déclarent que le bien est le mal, et le mal le bien, qui font de l'obscurité la lumière, et de la lumière l'obscurité, qui font passer pour amer ce qui est doux, et pour doux ce qui est amer. » Malheureux ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se considèrent intelligents. Fin de citation.
Der Klimakollaps wird die Menschen weiteres
Le désastre climatique fera comprendre de nouvelles choses aux hommes. Les limites que l'espèce humaine ne s'est pas imposées seront son déclin. Même Paul, tant apprécié des églises, a déclaré sans équivoque « Ce que l'homme sème, il le récoltera ».
Chers amis, dans ce contexte, j'aimerais bien reprendre la phrase « L'homme s'empoisonne lui-même » à travers ces cinq composantes qui deviennent des substances de combat. Nous allons maintenant entendre de nouveaux aspects sur les cinq substances de combat de l'être humain vues par un homme de médecine.
L'organe central de commande du corps humain est le cerveau. Il est composé de trois régions principales apparues successivement au cours de l'évolution. Le cerveau reptilien, le cerveau paléo-mammalien et le cerveau néo-mammalien. Le cerveau reptilien est la partie la plus ancienne de notre cerveau et commande toutes les fonctions vitales du corps, comme la respiration, la digestion, le rythme cardiaque, etc., c'est-à-dire notre comportement instinctif. Le cerveau paléo-mammalien abrite nos sentiments et nos émotions, et le cerveau néo-mammalien, le néocortex, composé de deux hémisphères reliés par un pont appelé corps calleux, est responsable, lui, de notre pensée analytique cognitive. Tout notre corps est inscrit dans le néocortex sous forme d'image. À chaque instant, toutes les informations qui, par l'intermédiaire de nos sens, parviennent à notre cerveau en provenance de notre corps ou du monde extérieur, sont traitées parallèlement par toutes les régions de notre cerveau, de sorte qu'en nous se forme une image individuelle, empreinte de toutes les informations que nous y avons enregistrées depuis le début. Aujourd'hui, la médecine sait que le système nerveux et immunitaire communiquent entre eux par des neurotransmetteurs. On présume que les pensées et les sensations amènent le cerveau à diffuser certains neurotransmetteurs qui influencent alors le système immunitaire. De tels neurotransmetteurs peuvent également être actifs directement dans l'ADN de la cellule, c'est-à-dire dans son patrimoine génétique. Certains chercheurs disent même de maladies comme le cancer quelles sont les conséquences d'informations erronées. L'activité des gènes nécessite une régulation, un système de contrôle. Celui-ci agit, par exemple, en activant ou désactivant certaines séquences de gènes, leur donnant ainsi d'autres fonctions. Cette régulation est dépendante de l'échange d'informations qui change constamment. Les gènes produisent différents types de protéines en fonction des séquences qui sont activées ou désactivées. Les protéines ont un rôle structurel dans l'organisme. Elles sont utiles aux cellules et aux organes du corps. La plupart des cellules sont renouvelées après une période allant de 7 à 10 ans, de sorte qu'au bout de cette période, le corps s'est complètement transformé. En résumé, on peut dire que le système nerveux, le système immunitaire et les molécules de signalisation sont en relation étroite les uns avec les autres. Aujourd'hui, on sait qu'il existe un grand nombre de molécules de signalisation. Dans le système nerveux, par exemple, on les appelle neurotransmetteurs et dans le système immunitaire, cytokines. De nos jours, il a été prouvé de façon très convaincante que des molécules messagères du système nerveux pouvaient influencer les cellules immunitaires et inversement. Les maladies se développent donc toujours sur la base d'un ensemble de facteurs nerveux, génétiques, immunologique et psychique. Nos pensées et les émotions qui s'y rapportent représentent la force la plus influente de ce processus. L'effet placebo en est un exemple. La seule pensée, la seule représentation qu'un médicament puisse apaiser la douleur peut effectivement provoquer un apaisement de cette douleur. Il est aujourd'hui prouvé scientifiquement que cela n'est pas seulement le fruit de notre imagination, mais que, par la force de notre représentation, une action biochimique est effectivement déclenchée dans le corps. Il devient d'autant plus facile à comprendre que les contenus de nos sentiments, sensations, pensées, paroles et actes qui ne sont pas en harmonie avec la vie, se transforment en substances de combat qui modifient notre corps et le conduisent à la maladie. Chers téléspectateurs, chers amis, c'est très important pour nous tous. Si nous nous observons un tant soit peu, nous constatons que nous sommes sans cesse en train de ressentir, de penser, de parler ou d'agir, et qu'ainsi nous influençons constamment notre corps et notre santé. Je poursuis la lecture. La principale substance de combat qui modifie notre corps est la pensée. Nos paroles et nos actes sont toujours précédés de pensées. À nos yeux, les sentiments et les sensations ne sont pas concrets, pas palpables. C'est uniquement lorsqu'ils se transforment en images dans nos pensées qu'ils deviennent réels et tangibles pour nous. En réfléchissant à quelque chose, on développe une image toujours plus réelle, comme dans un film. Si par exemple nous avons eu une dispute, que celle-ci n'est pas réglée et que nous y repensons sans cesse, nous pouvons voir que toujours plus de détails, toujours plus de sentiments se greffent sur l'image de cette dispute. Les dialogues intérieurs, par exemple, deviennent toujours plus tangibles, ils deviennent de plus en plus notre réalité. Nos émotions se modifient en permanence et s'adaptent au film qui se développe en nous jusqu'à ce que finalement nous en venions aux mots et aux actes correspondants. Dans l'usine chimique qu'est notre cerveau, chaque pensée provoque la diffusion de neuropeptides qui, en permanence, à chaque seconde, modifient notre corps. Dans le cas de pensées négatives, cette modification est orientée vers la maladie. Les maladies sont la conséquence d'informations erronées. La recherche médicale sur le cerveau appelle ce processus chimique la réaction autocatalytique. Cela signifie que des parties du cerveau entrent dans un circuit qui se renforce lui-même. Cela a lieu, entre autres, lorsque quelqu'un, comme dans l'exemple cité précédemment, émet des pensées et des sentiments qui, par cette réaction autocatalytique, deviennent de plus en plus puissants jusqu'à prendre eux-mêmes le contrôle. Ce flux d'informations et d'énergie, renforcé par cette réaction autocatalytique, imprègne alors le corps. Dans son livre intitulé « Das neue Gehirn », le nouveau cerveau, Johannes Holler écrit « Ainsi le programme, le software, devient disque dur, hardware. Dans le cas d'un programme positif, cela conduit à une meilleure santé et à la joie de vivre. Dans le cas d'un programme négatif, cela mène à la maladie, aux soucis, à la dépression et éventuellement à des maux ou des actes blessants. Des neurologues renommés des universités de Göttingen, Mannheim et Heidelberg, comme par exemple professeur Gerhard Hüther, étudie la puissance des images internes. Gerhard Hüther parvient à la conclusion que l'homme agit en raison des images qu'il a dans la tête et non sur la base de la réalité. Selon lui, l'homme est prisonnier de ses propres images. Il est l'un des rares scientifiques à déclarer qu'un homme peut changer s'il change les images qu'il a en lui. Par les cinq substances de combat que sont nos sensations, sentiments, pensées, paroles et actes négatifs, c'est à nous-mêmes que nous causons le plus de tort, car chacune d'entre elles développe ses effets destructeurs directement dans notre cerveau et dans notre corps, avant même d'avoir un impact ailleurs. Cela équivaut à un suicide lent, mais certain.
Liebe Mitmenschen,
chers amis, après avoir entendu tout ce qui vient d'être dit, la question qui se pose est : qu'y a-t-il à faire ? Quel chemin mène à la libération de l'âme ? Et comment pouvons-nous stopper le désastre de nos pensées ? Répétons-le, chacun de nous porte dans ses cinq composantes des substances de combat différentes auxquelles il devrait travailler avant qu'elles ne se transforment en tirs, en armes à feu, qui toucheront d'autres personnes et créeront une chaîne causale liant chaque maillon à ceux qui lui ressemblent. Il faudrait tout de suite stopper de telles associations. Celui qui est vigilant et s'observe lui-même peut se rappeler à l'ordre et comprendre la cause du contenu désastreux de ses pensées. Il se demandera par exemple ce qu'il peut mettre en ordre, ce qu'il a déjà émis, par quoi remplacer ses pensées basses, les substances de combat contenues dans ces cinq composantes, ou ce qu'il peut changer immédiatement et ce qu'il faut mettre en ordre envers certaines personnes.
Muss man mit Menschen bereinigen. Die Inhalte der fünf ordnungsgemäßen
Le contenu légitime des cinq composantes devrait en fait être la voie qui mène à la libération des comportements erronés. Le moyen de libérer notre âme, qui, en fin de compte, enregistre les causes dont nous la chargeons et en souffre énormément. Celui qui aime la liberté véritable, mais aussi le bien-être, la santé et la paix, devrait transformer les substances de combat dirigées contre son prochain, contre les animaux et la nature, en forces lumineuses, en sensations, sentiments et pensées pacifiques, en paroles sincères et droites. Ces actes devraient correspondre, au niveau de ces cinq composantes, à ce que Jésus de Nazareth nous a enseigné. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le tout d'abord pour eux. Ou, ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ce comportement permettrait de commencer à vivre dans l'un universel. C'est ainsi que nous pourrions libérer progressivement le noyau central de notre être et que nous répondrions à l'être spirituel qui habite en nous, que nous sommes au plus profond de notre âme.
Chers amis, nous venons de lire un extrait du livre intitulé « L'unité universelle parle, la parole de l'Esprit créateur universel », une œuvre cosmique d'enseignement et d'apprentissage donnée à l'école de la sagesse divine. Cette lecture offre à tous ceux qui le souhaitent matière à réfléchir sur les conséquences engendrées par le contenu de leurs sensations, sentiments, pensées, paroles et actes, et aide à en prendre conscience. Peut-être êtes-vous, vous aussi parfois, effrayé par la portée de ces effets, déclenché par tout ce que nous émettons nous-mêmes. Dans notre prochaine émission, nous pourrons à nouveau regarder par la porte, à peine entrouverte, sur la création de Dieu. Notre thème sera « L'homme, le noyau central et l'être spirituel » et nous entendrons de nouveaux éclaircissements offerts par Gabriel. Nous vous souhaitons à chacun une période riche en auto-reconnaissance, une salutation au Dieu et au revoir.